La justice. Parmi les modalités de fonctionnement optimales d'une société, suscitant à la fois méfiance et respect, empêchant le fort d'opprimer le faible, sans oublier son rôle de garant des droits de tous, s'exerce la justice. La justice s'incarne dans l'action des différents tribunaux, c'est un principe relevant de l'éthique. Rendue au nom du peuple français, elle est le progrès le plus notable de toute organisation sociale, car la justice publique met un terme à l'exercice de la vengeance privée. Cependant, face au jargon judiciaire, les judiciables sont souvent perdus entre les différentes juridictions, leurs membres et domaines de compétences. Robes, toques et hermines, magistrature assise ou debout, explorons les arcanes des tribunaux en France que sont les juridictions civiles, pénales et administratives. Les juridictions civiles. Par application des lois qui n'entraînent pas de sanctions pénales qu'on trouve dans le Code civil, le Code du travail, le Code du commerce, etc., les juridictions civiles règlent les litiges qui ne sont pas des infractions entre personnes. Les juridictions de droit commun ont une compétence étendue à tous les litiges, sauf cas particuliers. Le tribunal d'instance. La France compte 473 tribunaux d'instance, dont 11 en Outre-mer, répartis par arrondissement. Créé en 1958, le tribunal d'instance est compétent pour des litiges de valeur pécuniaire inférieure à 2000 euros et à charge d'appel jusqu'à 7600 euros. La procédure exige une conciliation préalable. Si celle-ci échoue, le procès a lieu, présidé par un juge unique, assisté d'un greffier et spécialisé dans le règlement de litiges concernant le surendettement des particuliers, le crédit à la consommation, les baux d'habitation, le bornage entre propriétés, des ordonnances d'injonction de payer, les révisions de rente viagère, les procédures de recouvrement direct des pensions alimentaires. Le jugement est rendu par un juge unique pour tout conflit entre particuliers dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros. Le tribunal de grande instance, TGI. Issu du tribunal de district créé en 1792, le tribunal de grande instance voit son organisation fixée par des ordonnances et des décrets en 1958 et modifiée en 1983 et 1994. Il en existe actuellement 181, dont un au moins par département. Dans les villes importantes, les TGI sont divisés en plusieurs chambres. Il y en a 10 à Lyon, 11 à Marseille, 31 à Paris, etc., qui peuvent elles-mêmes être divisées en sections. Ces juridictions sont dites de droit commun. De leurs compétences générales relèvent les affaires civiles d'une valeur supérieure à 10 000 euros, les affaires immobilières, les litiges concernant l'état et la capacité des personnes, comme les mariages, les divorces et la filiation, la rectification des actes civils, l'adoption, les régimes matrimoniaux, les successions, les contestations sur la nationalité, les actions relatives aux appellations d'origine, brevets d'invention, marques, les actions en dissolution d'association et certains litiges en matière de fiscalité indirecte ou de droit d'enregistrement. Le tribunal de commerce. L'organisation du tribunal de commerce au nombre de 234, dont 5 en Outre-mer, est particulière car les juges dénommés juges consulaires sont des commerçants bénévoles élus pour 2 ou 4 ans par leurs pairs qui sont les délégués consulaires, membres en exercice du tribunal de commerce et de la chambre de commerce et d'industrie, ou les anciens membres de ces institutions ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. Le tribunal de commerce règle les désaccords entre commerçants et les litiges relatifs aux actes de commerce. Ces hommes et femmes sont de nationalité française et âgés de plus de 30 ans, inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel depuis 5 ans au moins ou ayant exercé des fonctions de dirigeant ou de directeur d'entreprise pendant 5 ans au moins, inscrit sur la liste électorale des délégués consulaires dans le ressort du tribunal de commerce ou dans celui des tribunaux de commerce limitrophes. Voici ce qui relève des compétences du tribunal de commerce. Le règlement des litiges entre commerçants, le règlement des litiges entre associés de sociétés commerciales, les procédures relatives aux difficultés de commerçants ou artisans comme la liquidation ou le redressement judiciaire. Le Conseil de prud'homme. Le Conseil de prud'homme est composé de conseillers élus au nombre de 306, dont 6 en Outre-mer, représentant paritairement les salariés et les employeurs. Leur activité se divise entre la conciliation, afin de rapprocher les parties et d'éviter le procès, et le jugement des affaires soumises. Ce conseil est divisé en 5 sections qui sont la section de l'encadrement composée de cadres, de VRP et d'agents de maîtrise, la section de l'industrie composée d'ouvriers et d'employés de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux composée d'ouvriers et d'employés du commerce, la section de l'agriculture composée d'ouvriers et d'employés agricoles et la section des activités diverses. Les conseillers prud'hommes sont des juges élus par leurs pairs. Ils représentent en nombre égal les employeurs et les salariés. Voici ce qui relève des compétences du conseil de prud'hommes. Le règlement par voie de conciliation des litiges entre employeurs et salariés au sujet du contrat de travail. Le jugement des litiges en cas d'échec de la conciliation sur le paiement du salaire ou des primes, la remise de l'attestation destinée aux ACEDIC, les horaires, les congés payés, les conditions de rupture ou de non-renouvellement du contrat, par exemple en cas de non-respect des délais légaux ou des formes réglementaires, les absences de causes réelles et sérieuses, les indemnités de préavis ou de licenciement, indifférent avec l'entreprise quand un salarié ne respecte pas une clause de non-concurrence ou la durée légale du préavis de départ. Le tribunal paritaire des baux ruraux. Chacun des 476 tribunaux paritaires des baux ruraux siège auprès d'un tribunal d'instance et règle les conflits entre propriétaires fonciers et fermiers ou métayers qui lui louent ses terres. Le juge d'instance préside ce tribunal, assisté de 4 assesseurs non professionnels élus pour 5 ans à partir des listes électorales établies par les maires des communes, dont 2 sont des propriétaires et 2 sont des métayers ou des fermiers. Voici ce qui relève des compétences du tribunal paritaire des baux ruraux. Le jugement des litiges relatifs aux agriculteurs et plus spécialement aux baux ruraux, le règlement des conflits s'élevant à l'occasion d'un bail rural entre le propriétaire d'un domaine agricole et son fermier ou métayer, comme le loyer de fermage, la durée de métayage ou la reprise de la terre. Le tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette juridiction a été créée avec la mise en place de la sécurité sociale en 1945. Il existe 113 tribunaux des affaires de sécurité sociale, dont 4 en Outre-mer. Il est présidé par un juge du tribunal de grande instance, assisté de 2 assesseurs qui représentent les salariés, les employeurs et les travailleurs indépendants. Ces assesseurs non professionnels sont désignés pour 3 ans par le président du tribunal de grande instance, sur présentation des organisations syndicales des professions agricoles et non agricoles les plus représentatives. Le tribunal des affaires de sécurité sociale règle les litiges entre les usagers et les différents organismes de la sécurité sociale, comme les prestations familiales, les cotisations, etc. Ce qui ne relève pas des compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale sont les décisions d'ordre médical sous la compétence de la commission technique régionale, les plaintes contre les infractions au code de la sécurité sociale réprimées par la justice pénale, les conflits liés aux institutions de retraite complémentaires sous la compétence de la justice civile. Les juridictions pénales. Les juridictions pénales ont la double mission de poursuivre et sanctionner les infractions et de protéger les libertés individuelles. Les juridictions d'instruction. La juridiction d'instruction est aux mains du juge d'instruction qui siège au TGI et dispose de pouvoirs considérables. Celui-ci a la charge d'enquêter afin de trouver les preuves d'une infraction et les éléments de la culpabilité d'une personne. Il instruit à charge et à décharge afin d'établir la vérité. Au cours de ses enquêtes, il a le droit d'interroger, de perquisitionner, de faire des saisies. Il ordonne par le mandat de comparution que sont les convocations, le mandat d'amener, c'est l'arrestation d'une personne pour l'amener devant le juge d'instruction, le mandat d'arrêt, c'est l'ordre d'arrêter et de détenir une personne, le mandat de dépôt, quand l'individu est mis en examen et conduit en maison d'arrêt. Le juge d'instruction peut également imposer la mise en détention provisoire. Enfin, c'est lui qui clôture l'instruction en ordonnant un non-lieu quand les preuves de l'infraction n'ont pas été établies ou un renvoi quand il ordonne au tribunal compétent de juger l'affaire. La juridiction d'instruction dispose d'un 2e degré de juridiction, la chambre d'accusation. Sa saisine est obligatoire avant qu'une affaire criminelle soit renvoyée en cour d'assises. Elle a également le pouvoir de réhabilitation financière et d'amnistie.
N'oubliez pas, quelle affaire ! Dans les annales de la justice française sont inscrits des procès retentissants ayant conduit à l'arrestation de criminels célèbres, mais aussi, malheureusement, de tragiques erreurs ayant conduit à la condamnation de nombreux innocents. La plus célèbre victime d'erreurs judiciaires du début du XXe siècle fut sans conteste le capitaine Alfred Dreyfus. L'affaire Dreyfus, ou plus simplement l'affaire, s'étale de 1894 à 1906. Juif et originaire d'Alsace, occupé depuis 1871, le capitaine est accusé de trahir au profit de l'Allemagne. Un premier procès, en décembre 1894, le condamne à la dégradation militaire et à la déportation au bagne de l'île du Diable, en Guyane. Grâce à l'acharnement de son frère Mathieu, du journaliste Bernard Lazare et du vice-président du Sénat, Scheurer Kestner, et surtout d'Émile Zola et son « J'accuse » du 13 janvier 1898, qui veulent démontrer l'innocence du capitaine Dreyfus, un second procès, en septembre 1899, le reconnaît une nouvelle fois coupable, mais avec des circonstances atténuantes, et le condamne à 10 ans de prison. Ce même mois, il est gracié par le président de la République, Émile Loubet. Mais la grâce ne signifie pas la reconnaissance de son innocence. Il faut pour cela l'arrêt de la Cour de cassation de juillet 1906, qui annule le jugement. Dreyfus est alors réhabilité, promu chef d'escadron et reprend son existence de militaire au sein de l'armée française.
Les juridictions de jugement. Au nombre de 3, chaque juridiction de jugement juge des infractions pénales spécifiques. La première juridiction de jugement est le tribunal de police, dont les jugements concernent les auteurs de contraventions, c'est-à-dire les infractions les moins graves, comme les infractions au code de la route, le tapage nocturne, etc., et sont rendues par un juge unique, le juge d'instance. Les peines encourues sont des amendes, des travaux d'intérêt général ou des peines de prison inférieures à 2 mois. La seconde juridiction de jugement est le tribunal correctionnel. Dans le cadre du TGI, le tribunal correctionnel juge des infractions plus graves ou délits comme les vols, les coups et blessures, les escroqueries, etc. La décision appartient à 3 magistrats, 2 juges et le président du tribunal ou à un juge unique pour les délits les moins graves. Le procureur de la République ou un substitut requiert la peine. Les peines encourues sont des amendes d'un montant variable selon leur gravité ou des peines allant de 2 mois à 10 ans de prison. La troisième juridiction de jugement est la cour d'assises. Il y en a une par département. Elle juge les crimes que sont les meurtres, assassinats et viols. Sa composition est complexe. Elle comprend la cour avec 3 juges, le parquet composé d'un avocat général ou du procureur de la République, le greffier qui se charge de la retranscription de l'audience et le jury composé de 9 jurés qui sont des citoyens tirés au sort à partir des listes électorales. Elle siège par session de 15 jours maximum, une fois par trimestre. Magistrats et jurés examinent l'affaire en audience publique, au cours de laquelle tous les éléments sont débattus oralement et contradictoirement. Ils délibèrent ensuite sur la culpabilité de l'accusé et sur la peine. L'accusation est soutenue par un magistrat du parquet qu'on appelle avocat général. Les juridictions administratives. Les juridictions administratives jugent les litiges relatifs aux actes administratifs et les litiges entre les particuliers et l'administration. Le tribunal administratif. Au nombre de 35, les tribunaux administratifs jugent les litiges de droit commun entre les particuliers et l'administration, à l'exception de ceux qui sont réservés par des textes spéciaux à d'autres juridictions, le Conseil d'État par exemple. Il s'agit notamment des décisions de l'administration pouvant porter préjudice aux particuliers et des dommages causés par l'activité des services publics. Les cours administratives d'appel. Ce sont des juridictions d'appel qui réexaminent les dossiers déjà jugés par un tribunal administratif lorsque l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision rendue. Elles sont au nombre de 7 et siègent à Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes et Paris. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État juge en premier et dernier ressort certains recours comme ceux engagés contre les décrets. En appel, certains jugements rendus par les tribunaux administratifs. En cassation, les jugements rendus par les cours administratives d'appel. L'appel. La législation en France prévoit l'existence de juridictions supérieures qui permettent de faire appel lorsque le premier arrêt rendu ne satisfait pas l'une des parties en présence. Jusqu'en 2000, il existait 2 possibilités d'appel, devant une cour d'appel ou devant la cour de cassation. Depuis, il est possible de faire appel d'une décision de cour d'assises devant une autre cour d'assises. C'est l'appel circulaire. La cour d'appel. La France compte 33 cours d'appel, dont 3 en Outre-mer. Elles ont des compétences en matière civile. Toute décision d'une juridiction de premier ressort peut normalement faire l'objet d'un appel. C'est le cas des décisions tranchant des litiges inférieurs à un certain montant, variable selon la juridiction. Elles ont aussi des compétences en matière pénale. L'appel des juridictions d'instruction est du ressort de la chambre d'accusation. L'appel des jugements du premier degré est du ressort de la chambre des appels correctionnels, qui sont à la fois appel du tribunal de police et du tribunal correctionnel. L'appel des décisions du juge des enfants est du ressort d'une chambre spéciale pour les mineurs. Dans ces différentes chambres, la procédure est la même que celle du tribunal de grande instance. Il faut noter la présence à côté des juges, procureurs, greffiers, avocats, de l'avoué qui rédige les actes de procédure. La Cour de cassation. Créée en 1790, la Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Elle est unique et siège à Paris. Elle est constituée de 6 chambres, une chambre criminelle et 5 chambres civiles, et se compose de 149 magistrats, parmi lesquels 128 membres du siège et 21 membres du parquet. Toute personne s'estimant lésée par un jugement peut former un pourvoi devant cette cour. La mission de celle-ci n'est pas de rejuger une affaire, mais de vérifier si, dans le déroulement du procès, le droit a bien été respecté. Le délai de vérification est de 2 mois pour une affaire civile, de 5 jours pour une affaire pénale. Si ce n'est pas le cas, la décision de justice est cassée et l'affaire est rejugée par la juridiction compétente. L'appel circulaire. Depuis le vote de la loi du 15 juin 2000, est institué un appel circulaire, c'est-à-dire la possibilité, après l'arrêt d'une cour d'assises ayant statué en premier ressort, de porter de nouveau l'affaire devant une seconde cour d'assises qui fera alors fonction de cour d'appel. Cela signifie qu'un second jury aura à se prononcer après qu'un premier l'a déjà fait. L'arrêt rendu par cette nouvelle cour n'est pas susceptible d'un nouveau pourvoi devant une cour d'appel classique. Il peut l'être, toutefois, dans le cadre d'un pourvoi devant la cour de cassation.
Le saviez-vous ? Assis, debout. La magistrature se compose de 2 types de magistrats. La magistrature assise et la magistrature debout. La première est celle des juges ou magistrats du siège. Inamovibles, ils représentent environ 75% des effectifs. La magistrature debout, ou parquet, est composée des procureurs et avocats généraux. Ils sont ainsi appelés car, pour prononcer leur réquisitoire, ils doivent se lever quand les juges les écoutent assis et le demeurent quand ils prennent la parole au cours du procès.
Grande question de société. La société n'est pas faite seulement d'organisation des pouvoirs et d'exercice de la démocratie et de la justice. Elle est également le lieu vivant d'affrontements autour de thèmes qui touchent chacun dans ses choix les plus personnels. Il en a été ainsi de l'interruption volontaire de grossesse et de la peine de mort. Il en va de même aujourd'hui de l'euthanasie, du mariage et de l'adoption pour les couples homosexuels. L'IVG. L'interruption volontaire de grossesse est sans doute le sujet qui a occasionné les débats les plus houleux. Tranché finalement par voie parlementaire avec le vote du projet de loi Neuwirth en 1967 qui abroge l'interdiction de toute contraception en France depuis la loi de 1920. Mais l'avortement reste interdit jusqu'à l'adoption de la loi Veil en 1975 qui autorise l'interruption volontaire de grossesse ou IVG. C'est une évolution radicale de la société française qui criminalisait cette pratique qui était punie de mort sous le régime de Vichy. La peine de mort. La peine de mort est abolie en France par une loi en 1981, ce qui ne fait que mettre le pays en conformité avec les traités européens signés qui prévoient explicitement l'abolition de ce mode de châtiment judiciaire. Le recours à la voie parlementaire est à l'époque un choix nécessaire car un référendum risque de relever un possible souhait de maintenir le recours à la guillotine. L'euthanasie. 3 pays européens, dont 2 membres de l'Union européenne, autorisent sous diverses formes l'euthanasie, du grec « eu » et « thanos », c'est-à-dire la pratique qui consiste à aider une personne à mourir. En Suisse, l'euthanasie active, c'est-à-dire l'injection par un médecin d'une substance létale, est interdite. Mais l'aide, c'est-à-dire l'euthanasie passive, quand la personne avale elle-même ou déclenche la perfusion du produit donné par le médecin, est légale. Depuis le 1er avril 2002, l'euthanasie encadrée par un médecin est autorisée aux Pays-Bas. La justice s'incarne dans l'action des différents tribunaux. Cette disposition est adoptée le 23 septembre 2002 par la Belgique. En France, la loi distingue euthanasie active, demeure un meurtre. Le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Le mariage homosexuel est aujourd'hui autorisé dans 4 États de l'Union européenne. Les Pays-Bas depuis le 1er avril 2001, la Belgique depuis le 30 janvier 2003, l'Espagne depuis le 30 juin 2005, la France depuis le 17 mai 2013. Aux Pays-Bas et en Espagne, les couples homosexuels ont le droit d'adopter des enfants dès l'entrée en vigueur de la loi. En Belgique, il faut attendre la loi complémentaire du 18 mai 2006 les y autorisant. La grande majorité des autres pays membres de l'Union européenne reconnaissent d'autres formes d'union entre personnes de même sexe sous forme d'un partenariat enregistré, sans possibilité d'adoption, mais ne reconnaissant pas le mariage.